16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre. Deux heures d'histoire, pas tout à fait comme les autres. Pas d'interrogation écrite à la fin, pas de date à retenir pour la prochaine fois. Mais juste le bonheur de découvrir chaque jour d'autres époques, d'autres personnages. Avec vous Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est vrai, chaque après-midi, Historiquement vôtre, c'est la seule émission, toute radio confondue, où vous n'entendrez pas parler ni de la pandémie de Covid-19, ni d'Olivier Véran. Dépaysement garanti donc avec, comme d'habitude, trois personnages issus d'époques différentes, mais qui partagent un point commun, aujourd'hui, celui de s'être justement créé un personnage.
Oui, des personnages qui se sont créés le leur. À commencer par un écrivain reconnu qui s'est créé un personnage pour ne plus l'être. Le prix Goncourt, Romain Gary a donné vie, pour retrouver sa liberté d'écrire, à Émile Ajar, un double imaginaire à la destinée littéraire bien réelle, vous verrez. Puis je vous raconterai le dessin fascinant d'un artiste qu'il était tout autant, David Bowie. David Bowie et Ziggy Stardust aussi. L'un des célèbres personnages qu'il a fait plus qu'incarner, mais qu'il a totalement habité.
Enfin Stéphane, je commence à vous connaître. Le portrait s'affine, je sais que vous collectionnez les timbres, les teckels nains à poil dur, et ça ne m'étonnerait pas que vous soyez le genre de type à mettre une alarme à 3h du mat pour vous mater un petit tournoi de catch en direct sur ESPN.
Pas exagérer non plus.
En fan de catch, vous connaissez forcément Hulk Hogan, ce combattant invincible, légende de la discipline aux États-Unis. En revanche, je suis sûr que vous connaissez moins Terry Jane Bollea. C'est le vrai nom du terrifiant Hulk Hogan que, le catch étant plus un show qu'un sport, on ne connaît qu'à travers son personnage. Mais sous les pecs huilés, vous verrez qu'il y a un petit cœur qui bat.
Et avec nous, comme chaque jour, trois petits cœurs qui battent aussi très fort la chamade, nos chroniqueurs.
À commencer, Stéphane, par celle qui nous fait l'honneur de nous accompagner chaque après-midi, malgré un emploi du temps chargé, une historienne insatiable qui nous rejoint.
Entre deux orgies de choucroute et de soupe à la bière.
C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vous parle d'une geisha. Vous avez parce que c'est qu'un catcheur, mais une geisha, ça vous dit quelque chose.
Ça parle très bien.
Bon, voilà.
C'est alors, une dame qui vous rend des petits services.
Exactement. Alors et moi, je vais vous parler, pas seulement, elle sait faire toutes sortes de choses, en effet.
Elle vous sert le thé, elle vous fait de la poésie.
Oui. Un robot multifonction. Quoi.
Vous connaissez très bien les geishas, Stéphane.
Amie féministe.
Moi, je vais vous parler de teruwa. Teruwa, en japonais, ça signifie feuille brillante, et elle est considérée comme la plus célèbre geisha de l'histoire du Japon. On l'a surnommée, on la surnomme toujours, la geisha aux 9 doigts.
Ah, il y en manquait un.
Bah, c'est ce que vous verrez tout à l'heure.
Où est passé le dixième ? C'est toute la
tout
question.
Tout là, du teasing est là. Oui.
Je suis déjà très excité. David Castello-Lopez est avec nous également. Rien à voir avec mon excitation, c'est juste le sujet d'avant qui m'excitait. Les sanisettes, David, d'où ça vient ? Qui a inventé ? Alors, tout de suite, l'excitation retombe d'un coup.
Ça dépend.
Ça dépend pour qui ? Effectivement.
Dans les sanisettes, c'est quand même un endroit clos.
C'est vrai, il peut se passer beaucoup de choses.
Ça a remplacé les Vespasiennes.
Tout à fait, dans lesquelles. On en parlera.
Dans lesquelles fois, Stéphane ?
Mais non, mais.
Un lieu d'essence, mais.
Oui, tout à fait.
De la sanisette à la gariguette, il n'y a qu'un pas. Bonjour, Olivier.
Bonjour les amis. Bah, écoutez,
c'est bon la gariguette, ouais, c'est petite fraise.
Le signal du début du printemps quand même. Ouais. D'où nous vient cette fameuse fraise gariguette? Vous verrez qu'elle n'est pas si vieille que ça.
Et pourquoi est-elle si chère?
Bah, vous le saurez aussi.
C'est vrai qu'elle est chère, la gariguette.
C'est pas donné.
Et vous venez de dire qu'elle n'est pas si vieille que ça,
non.
Ça c'est d'une espèce récente qu'on a créée.
Oui, absolument. Et vous saurez qui l'a créée. J'ai le nom de la maman de la gariguette.
La maman de la gariguette, ça sera juste après la sanisette et la geisha aux 9 doigts. Une émission cohérente de A à Z. Enfin, que serait la vie sans l'adrénaline du jeu? Certes, l'image que vous avez de Stéphane Bern serait un peu plus glorieuse, mais c'est le petit inconvénient de Bern to be alive. Ce quiz qui dévoile chaque après-midi les limites de l'érudition bernienne, ce sera vers 5h-10. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier personnage du jour qui, justement, joua à se construire un personnage. Stéphane Bern nous raconte Émile Ajar, le double littéraire que s'était inventé Romain Gary.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Le prix Goncourt va fêter ses 98 ans cette année. En bientôt un siècle, le plus célèbre des prix littéraires français a bien sûr connu son lot de controverses, parfois enflammées. Mais il y a un roman qui ressort plus que les autres, c'est « La vie devant soi », publié en 1975, un livre qui raconte l'histoire de Momo et de Madame Rosa. Si vous ne l'avez jamais lu, Mathieu, ouvrez-le.
Mais je l'ai
c'est
lu,
le genre de roman qu'on lit en souriant et en se mouchant en même temps, parce que on passe sans arrêt de la tristesse à la drôlerie pure. Momo, c'est un petit gamin arabe, un immigré qui pousse comme une herbe folle dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris. Madame Rosa, c'est une vieille dame juive et accessoirement une ancienne prostituée rangée des voitures qui a monté une pension de famille joyeusement clandestine pour aider les gamins des prostituées, pour tous les gosses qui, selon leur auteur, sont nés de travers. Son auteur, justement, Émile Ajar, n'a jusque-là qu'un seul autre roman à son actif. Un roman paru un an plus tôt. Pourtant, son livre, sorti 2 mois avant le Goncourt, est déjà un succès d'édition impressionnant. Alors attention, tout le monde a bien conscience que Ajar est un nom de plume. Mais personne ne sait alors qui se cache derrière ce nom. À l'annonce du prix, les rumeurs s'envolent. On cite Raymond Queneau, on pense à Louis Aragon, mais sans l'ombre d'une preuve. Émile Ajar, lui, ne se montre pas et ne dit pas un mot, ou plutôt si. Le 20 novembre, 3 jours après l'annonce, il fait savoir qu'il refuse le prix, ce qui provoque évidemment un beau scandale. Mais les jurés expliquent qu'on ne lui demande pas tellement son avis à Ajar. Le Goncourt récompense un livre, pas un auteur. La seule règle est que le prix ne peut jamais être attribué 2 fois au même auteur. C'est pourtant exactement ce que viennent de faire les jurés. Si Ajar refuse le prix, c'est pour la bonne raison que celui qui se cache derrière ce nom l'a déjà obtenu 20 ans plus tôt, en 1956, pour « Les racines du ciel ». Émile Ajar, c'est Romain Gary, et Romain Gary, ce n'est pas n'importe qui. Romain Gary est l'une des grandes figures de la littérature de l'après-guerre, bien sûr récompensé pour Les Racines du Ciel donc, mais célèbre aussi pour ses autres romans, La Promesse de l'Aube, Les Couleurs du Jour ou Chien Blanc. Mais Gary n'est pas qu'un romancier, c'est un homme qui a déjà vécu plusieurs vies en une seule. Il est célèbre pour son mariage tumultueux avec l'actrice américaine Jean Seberg, la Patricia dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard. C'est aussi un diplomate de métier qui a fait une belle carrière en Europe avant d'être nommé consul de France à Los Angeles. C'est enfin une figure de la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération, résistant de la première heure, blessé au combat au cours d'une des 25 missions de bombardement qu'il a menées au-dessus de l'Allemagne. Un héros donc, et un modèle d'intégration à la française. Gary est un petit immigré né à Vilnius en Lituanie, débarqué tout gamin à Nice avec une mère haute en couleur qui a tout sacrifié pour lui. Mais vous allez me demander, Mathieu, avec une carrière pareille, qu'est-ce qui a bien pu lui prendre à Romain Gary ?
C'est vrai, avec une carrière pareille, qu'est-ce qui a bien pu lui prendre à Romain Gary, Stéphane ?
Ben, la question se pose, Mathieu. Prendre un nom de plume, en soi, ce n'est pas rare. On sait que Jean-Baptiste Poquelin a choisi Molière, que François-Marie Arouet a inventé Voltaire, mais le cas de Gary est un peu différent. Lui, il est déjà célèbre sous son véritable nom lorsqu'il s'imagine une nouvelle identité. Pourtant, là encore, il y a d'autres exemples. Au XVIIIe siècle déjà, le poète écossais James Macpherson avait inventé un vieux barde écossais, Ossian, dont il prétendait n'être que le traducteur. Boris Vian a fait le même coup en créant le personnage de Vernon Sullivan pour écrire « J'irai cracher sur vos tombes », un roman qui a fait scandale en 1946, alors qu'il avait déjà été repéré par Gallimard. Plus près de nous, Stephen King a créé son double, Richard Bachman, en 1984, alors qu'il était déjà un des romanciers les plus célèbres au monde. Alors pourquoi ? Ben, disons que Boris Vian, Stephen King ou Romain Gary ont sans doute des points communs. La curiosité déjà. Est-ce que le succès sera à nouveau au rendez-vous en repartant de zéro sous un autre nom ? Mais surtout, inventer un autre auteur permet d'explorer des choses différentes sans risquer sa réputation. J'irai cracher sur vos tombes a, par exemple, été jugé si obscène, si scandaleux, que le livre a été longtemps interdit. En tant que diplomate, Romain Gary est bien placé pour savoir qu'il y a des limites à ce qu'on peut écrire lorsqu'on a atteint un certain statut social. À la minute où il crée Émile Ajar, il redevient d'autant plus libre qu'il multiplie les fausses pistes et qu'il ne prévient personne, même pas son éditeur, qui a reçu le premier livre d'Ajar par la poste dans un colis qui venait tout droit du Brésil. Cela dit, Romain Gary est joueur, très joueur même. Et il avait volontairement laissé 2 beaux indices. Le premier, c'est le nom de son double. En russe, Gary veut dire « brûle », à l'impératif. Le mot « ajar », lui, désigne une braise, un charbon ardent. Le second indice, c'est le sujet même de « Gros câlin », le premier roman d'Ajar, publié 1 an avant le Goncourt, en 1974. Gros câlin, c'est l'histoire d'un narrateur qui a un serpent comme animal de compagnie, un python énorme qui le serre entre ses anneaux pour le réconforter et avec qui il se confond petit à petit. Mais Romain Gary n'avait pas prévu l'ampleur que va prendre la supercherie au moment du prix Goncourt, lorsque son double prend soudain toute la lumière. Romain Gary prend alors une drôle de décision. En croyant certainement calmer la presse, il décide de donner un nom et un visage à sa créature. Et pour cela, il se tourne vers Paul Pavlovitch, le fils d'une cousine, à qui il demande tout simplement d'incarner Émile Ajar. 5 jours après la décision du Goncourt, les journaux annoncent que le mystérieux lauréat du Goncourt s'appelle en réalité Paul Pavlovitch et qu'il est le neveu de Romain Gary. Tout le monde n'y voit que du feu. Oh, on soupçonne bien Gary d'avoir un peu aidé son neveu, mais il dément formellement. L'écrivain à succès rappelle qu'il vient tout juste de sortir un nouveau livre et jure, c'est grand Dieu, que personne ne peut écrire 2 romans pareils en même temps. Il faut dissiper ses fumées, écrit-il à propos de son neveu, et ne pas abîmer ce garçon d'or pur. Et pendant 4 ans, Gary va écrire plusieurs romans sous ses 2 identités. Mais la supercherie prend un drôle de tour au fil des mois. D'abord parce que Paul Pavlovitch sort petit à petit du script, comme s'il voulait donner une sorte d'indépendance et d'existence à cet Émile Ajar dont il n'est censé être que le prête-nom. Il rencontre des journalistes, il leur donne des éléments un peu trop précis en s'inventant une vie qui ressemble, à s'y méprendre, à celle de Romain Gary. Sa naissance dans une famille juive en Lituanie, son immigration en France, un père mort qu'il n'a pas connu, une mère bijoutière à Nice. Ce petit jeu du chat et de la souris dangereux monte encore d'un cran en 1976. Cette année-là, Émile Ajar publie un nouveau livre qui a pour titre « Pseudo ». Le grand public, qui croit toujours que le livre est écrit par le neveu de Romain Gary, y découvre une attaque brutale du neveu contre son oncle. Une charge tellement violente que l'éditrice d'Ajar a demandé à Romain Gary ce qu'il en pensait avant de le publier, sans savoir évidemment que c'est lui qui se cache derrière les 2 auteurs. L'histoire aurait pu encore durer longtemps, mais elle s'arrête brutalement le 2 décembre 1980. Ce jour-là, Romain Gary déjeune avec son éditeur, Claude Gallimard, avant de rentrer chez lui rue du Bac. Lui qui s'était toujours juré de ne jamais vieillir tient sa promesse. À 66 ans, il se tire une balle dans la bouche, une balle qui tue un seul homme, mais 2 auteurs. Quelques jours plus tard, un manuscrit posthume arrive chez Gallimard intitulé « Vie et mort d'Émile Ajar ». Dans ce livre qui paraît 6 mois après, Romain Gary raconte toute cette supercherie littéraire hors du commun qui stupéfie le petit monde de l'édition et de la littérature. Son livre se termine par cette phrase « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Romain Gary et Émile Ajar, nous sommes avec le chercheur Jean-François Angouette. Bonjour Jean-François.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Jean-François Angouette. Vous êtes fondateur de l'association Les Mille Gary et auteur de plusieurs ouvrages sur Romain Gary, dont À la traversée des frontières, publié chez Gallimard. Un Gary peut donc en cacher un autre, voire plusieurs autres. Votre association compte 1000 Gary. En réalité, combien de Romain Gary comptez-vous ?
Romain Gary est assurément unique, hein. On peut en compter un, mais on peut le compter autant de fois qu'on compte ses livres, puisque chaque livre est très particulier. Et puis il y a des livres qu'il a écrits sous pseudonyme, donc en fait on pourrait aussi dire que Romain Gary est dans ses pseudonymes, donc il y en a une demi-douzaine, hein. Vous avez cité Émile Ajar, il y en a d'autres. Et puis Romain Gary, c'était aussi un nom officiel qu'il a eu en 1951. Mmh. Auparavant, il s'appelait Katsef.
Oui.
Et donc, on peut aussi compter en tant que Romain Gary, Romain Katsef, l'étudiant qui était lycéen à Nice, étudiant à Aix-en-Provence, à Paris dans les années 30. C'était aussi Roman Katsef dans son enfance lituanienne, russe, polonaise. Et puis, il y a eu, comme vous l'avez rappelé, le combattant des forces aériennes de la France libre, le diplomate, mais aussi le cinéaste, mais aussi un journaliste, polémiste, chroniqueur, en France comme aux États-Unis, c'est plus de 130 articles, hein, au moins, qu'il a pu faire. Et du coup, là, bah, j'ai perdu un peu le décompte des Romain Gary qu'on peut compter, mais c'est à peu
beaucoup.
Près ça, quoi.
Alors, justement, dans Vie et mort d'Émile Ajar, Gary écrit « Je lisais, au dos de mes bouquins, plusieurs vies bien remplies, aviateurs, diplomates, écrivains, rien, zéro, des brindilles au vent et le goût de l'absolu aux lèvres. Toutes mes vies officielles, en quelque sorte répertoriées, étaient doublées, triplées par bien d'autres, plus secrètes. » Il y a des vies qu'on ne connaîtra jamais de Romain Gary, des choses sur lesquelles il n'a pas écrit peut-être. Il a eu le temps d'avoir encore d'autres vies.
c'est assez difficile d'en trouver des vies dont il n'aurait pas parlé, dont des amis ou dont de la famille n'aurait pas parlé, mais il y a quand même, en tant qu'auteur même, des espaces encore qui vont réserver des surprises, je pense. Il y a tout un pan de son œuvre qui n'est pas publié, les pièces de théâtre notamment.
Mais si on parle de Romain Gary et de son double Émile Ajar, ça peut paraître surprenant qu'un écrivain connu se réinvente une identité. Bon, s'il n'avait eu aucun succès en tant que Romain Gary, bon, on comprendrait qu'il s'invente un autre, mais là, c'est pas le cas. Quels étaient ses motifs? C'était seulement retrouver sa liberté ou vérifier que c'était son œuvre qui était primée et pas son nom?
Il y a certainement cette part-là, effectivement, de pouvoir étalonner un peu son talent en présentant des ouvrages qui ne sont pas présentés comme étant signés par lui, assurément. Et aussi de pouvoir se ménager un espace de création complètement différent en termes de langue d'écriture, et de pouvoir le faire un peu sans le parasitisme du parisianisme qu'il l'avait déjà catalogué comme Romain Gary, auteur un peu répétitif, ce qui n'était pas du tout, un parisianisme qui le négligeait en tant qu'auteur américain, alors qu'aux États-Unis il était considéré l'égal de Boris Pasternak ou de Ernest Hemingway. Les critiques en parlaient comme d'un des lions de la littérature du XXe siècle, hein, le terme de lion étant un peu le terme consacré là-bas pour désigner les rois de la jungle des romans. Donc effectivement, il y a le fait de pouvoir créer sans être parasité par les considérations en retour de la critique parisienne.
Alors Jean-François, une question. Est-ce qu'à l'époque, on aurait pu détecter dans le style, justement, dont on parlait tout à l'heure, que Émile Ajar était Romain Gary? Ou est-ce que, par exemple, si on compare, je sais pas, La Promesse de l'Aube à La Vie devant soi, c'est difficile d'imaginer que c'est le même auteur?
Ah, c'est très difficile d'imaginer que c'est le même auteur, hein. Vous êtes embarqué dans une atmosphère très cosmopolite entre l'Europe, la Méditerranée, la guerre dans La Promesse de l'Aube. Et dans La Vie devant soi, vous êtes dans un immeuble vétuste du 18e arrondissement avec un jeune garçonnet plein de sensibilité qui raconte l'histoire de son attachement pour cette dame qui le garde. Donc vous n'êtes pas du tout dans les mêmes univers et l'écriture elle-même est différente. Donc il est absolument impossible de relier les deux, à part, a posteriori, quand on sait que l'un et l'autre, Romain Gary et Émile Ajar, on peut retrouver une expression ou deux qui font le lien, mais c'est très difficile quand même.
Mais justement, est-ce qu'il y a un moyen de décrire le style de Romain Gary? Ou est-ce qu'au fond, il va d'une métamorphose à une autre, et il change, et il surprend, il joue, parce qu'il était très joueur, comme on l'a dit?
Alors, son style varie avec tous les livres. C'est une des constances de Romain Gary, c'est cette multiplicité de styles en fonction des livres qu'il écrit. Et au fur et à mesure qu'il est en train d'écrire dans les années 1950-1960, quand on se rapproche de l'époque d'Émile Ajar, son style évolue et commence à impliquer des tournures qu'on retrouvera chez Émile Ajar. Mais d'un seul coup, ce style se transmute. Quand il est en train d'écrire Gros câlin, là, effectivement, son style se transmute complètement sur l'ensemble du manuscrit. Et c'est comme un peintre, je pense, qui se retrouve un nouveau style et qui se dit « Tiens, bah, c'est là-dedans que je vais continuer. » Et donc Romain Gary, lui, en fait, plutôt que de se dire « c'est juste dans le style d'Émile Ajar que je vais continuer », il se dit « tiens, bah, je vais continuer avec le style Romain Gary et je vais aussi, en parallèle, cultiver le style Émile Ajar ».
On parlait de la mise en scène de cette imposture à Ajar. Il a quand même donc demandé à son neveu d'incarner son double. Est-ce que tout ça était parfaitement orchestré, bien prémédité, ou ça s'est fait un petit peu comme ça, au déboté, si j'ose dire? Et est-ce qu'il n'a pas été dépassé par son mensonge?
Je pense effectivement, comme vous le suggérez, hein, que ça s'est fait vraiment au déboté, sous un peu la pression du monde de l'édition et de la publication. Tout ce qui n'appartient pas strictement à la création littéraire, hein, le premier contrat que signe Romain Gary, le signe effectivement avec sa signature, enfin pas avec sa signature à lui, mais en écrivant de sa main le nom d'Émile Ajar sur le contrat, quoi. C'est lorsque, en 1975, avec La Vie devant soi, il faut présenter un auteur, qu'effectivement il demande à Paul Pavlovitch de jouer, d'incarner l'auteur Émile Ajar. Donc c'est là que c'est devenu un petit peu compliqué, parce que Romain Gary, il avait assurément le sens du travail en équipe, hein. Il était navigateur à l'avant du bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale, il était secrétaire d'ambassade, porte-parole à la délégation française à l'ONU. Le travail en équipe, il connaît. Mais peut-être que là où c'est un petit peu plus difficile, c'est le travail en équipe dans la direction qu'il souhaite pour sa propre création à lui. Mmh. Quand il fait ses films Les oiseaux vont mourir au Pérou en 1967 ou Kill en 1971, il a toujours des problèmes avec, non pas avec les acteurs, mais avec les techniciens, parce que c'est jamais exactement comme il le veut. Et donc là, quand il y a effectivement, quand il demande à Paul Pavlovitch d'incarner quelqu'un, c'est dans le sens de sa création. Et là, le travail en équipe est un petit peu plus compliqué, je pense. Quoi.
Est-ce que le fait de s'être inventé un double comme ça, ça nous dit quelque chose sur la psychologie de Romain Gary? C'était quelqu'un qui était torturé ou joueur, comme on l'a dit? Comment vous l'interprétez?
Alors, je le vois pas vraiment comme torturé. Hein. Je vois comme quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein. C'est un ancien militaire, un ancien diplomate... mais ce qu'il aimait particulièrement, son passe-temps à lui, c'était de vivre des expériences multiples. Mmh. Et du coup, créer des romans, créer des personnages un petit peu en marge des romans, qui sont comme des écrins qu'il apporte au roman. Ah, bah, ce roman-là, tel auteur lui conviendrait bien, donc je crée en même temps l'auteur, je crée une biographie d'un auteur fictif, Émile Ajar, 30 ans, ultra sensible. Voilà, il crée des écrins en même temps, ça crée des expériences supplémentaires. Et c'est pas du tout des histoires de mystification, à mon sens. Ça, c'est plutôt le goût de l'exercice de la création pour vivre des expériences multiples qui sont un peu le moteur de Romain Gary, qui ne se contente pas d'une carrière, qui ne se contente pas d'une langue, qui ne se contente pas de répéter toujours le même livre d'un roman à l'autre, ou de répéter même un même auteur, les ouvrages de Romain Gary, les ouvrages d'Émile Ajar, etc.
Oui, mais en même temps, la fin est tragique, la fin de l'histoire. Est-ce que vous faites un lien entre ce brouillage identitaire et son suicide, ou c'est simplement parce que, comme on l'a dit, il refusait de vieillir et à 66 ans, il s'est tiré une balle?
Bah, je serais un peu dans la perspective qu'explique Romain Gary lui-même, hein, que vous rappelez. Effectivement, c'est bien avant d'inventer Émile Ajar, Romain Gary avait déjà expliqué à plusieurs reprises, dans plusieurs interviews, qu'il ne vieillirait jamais, en fait. Donc son suicide, c'est déjà chez Romain Gary une idée de longue date. Et elle est bien associée au refus de vieillir. Mmh. Mais finalement aussi, de longue date, Romain Gary ne parle pas seulement de son suicide. Hein, il exprime aussi cette idée de ne pas vouloir tout publier de son vivant et de réserver des œuvres pour des publications posthumes. Donc il y a un peu l'idée de la résurrection chez Romain Gary. Alors il a pas mal de pièces de théâtre qui n'ont pas encore paru. Hein, la résurrection de Romain Gary par le théâtre n'a pas encore eu lieu. Mais avec la révélation posthume qui est Vie et mort d'Émile Ajar, eh bien, on découvre que Ajar était Romain Gary, et à ce moment-là, Romain Gary a bien été redécouvert sous un tout nouveau jour en 1981. Mmh.
Et apparemment, Romain Gary avait, avec David Bowie, dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, un autre point commun que celui de s'être créé plusieurs personnages. Vous pouvez nous parler de ce point commun?
Oula, c'est une anecdote assez précise, hein, mais... Le dernier mot, la dernière expression de La vie devant soi, le prix Goncourt 1975 d'Émile Ajar, donc de Romain Gary, c'est « Il faut aimer ». Et dans la traduction américaine, le traducteur anglais avait suggéré « It takes love ». Mmh. Donc il avait traduit par « Il faut de l'amour ». Et Romain Gary a dit « Non, mais il faut que ce soit de l'amour vécu, intensif ». Donc il avait corrigé la traduction en disant « Non pas « It takes love », mais « It takes loving ». Parce que loving, c'est vraiment l'acte d'aimer, on est vraiment dans l'action d'aimer. Et petite anecdote, effectivement, c'est un peu une notion qu'on retrouve chez David Bowie, effectivement, dans la chanson Soul Love, où il s'exprime en disant « All I have is my love of love », tout ce que j'ai, c'est l'amour de l'amour, « but love is not loving », mais l'amour, ce n'est pas l'acte d'aimer. Donc voilà un peu pour un point commun entre Romain Gary et David Bowie.
Stéphane, vous allez me méditer tout ça.
Oui, hein, et ben, c'est puissant. Je vais surtout vous raconter l'histoire de David Bowie dans un instant. Mais en tout cas, on remercie Jean-François Angouet. Je rappelle votre dernier ouvrage consacré à Romain Gary, à la traversée des frontières, et qui est publié chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à vous Stéphane, merci à vous Mathieu. Au revoir.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle connaît sur le bout des doigts. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire de Teruah, la geisha aux neuf doigts.
D'ailleurs, en fait, elle ne s'appelait pas vraiment Teruah. Teruah, c'est son nom de guerre, d'une certaine manière. Son vrai nom, c'était Tatsuko Takawaka. Mais enfin, quand Takawaka, elle est rentrée dans l'histoire...
Waka Waka, ouais. Une bonne chanson.
Ah, oui. Bah, écoutez, comme elle est née en avril 1896, à l'époque, je pense qu'on n'écoutait pas encore ce genre de merveilles. Bon, et la pauvre Teruah, elle perd sa mère alors qu'elle est toute petite. Et comme elle est en enfant naturel, son père n'a pas grand-chose à faire. Et donc, il la vend. Quand elle a 12 ans, il la vend à une okiya. Une okiya, c'est ces maisons où l'on apprend à devenir geisha. En gros, c'est une maison close, si vous voulez, parce que même si les geishas, alors Stéphane nous disait tout à l'heure...
Mais il y a une vision très romantique des geishas.
À servir le thé, à faire de la musique. Bon, voilà, elles ne font pas que servir le thé. Et d'ailleurs, à tel point que l'okiya où elle rentre quand elle a 12 ans, vend sa virginité au plus offrant, la met aux enchères. Et le gagnant est un notable, un homme évidemment bien plus âgé qu'elle, en l'occurrence Kameshichi Umehara, il la viole à l'arrière d'un salon de thé. Il a acheté sa virginité. Et oui. Alors elle plaît beaucoup, elle plaît Teruah, à tel point qu'un certain Sobo Otomine la demande en mariage. Oui. Hein. Le père de Teruah refuse, parce que sur toutes ses prestations,
Le père touche.
Le père est un macro en quelque sorte. Hein. Donc il veut pas que sa fille se marie, mais enfin elle lui demande pas son avis. Donc le mariage doit se faire. Alors Sobo et Teruah partent ensemble en voyage. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Malencontreusement, Sobo, en fouillant dans les affaires de Teruah, trouve un petit miroir de poche dans lequel il y a la photo d'un acteur avec lequel Teruah avait fricoté. Donc en fait, elle l'a trahi. Elle va l'épouser alors qu'elle était amoureuse de son acteur de seconde zone.
J'ai une photo de Stéphane Bern dans mon portefeuille, ça ne veut pas dire que...
Oui. Je pense que si votre compagne tombait dessus, elle ne serait pas forcément très très contente. Elle vous ferait des problèmes. En tout cas, lui, il renvoie Teruah dans son Nokia, elle n'a pas 15 ans à ce moment-là. Et elle se rappelle alors une pièce de théâtre où, pour prouver son amour et sa loyauté, une femme se coupe un doigt et l'offre à un samouraï. Ni une ni deux, elle se procure un rasoir, la femme allonge de l'auriculaire et va l'offrir dans un petit mouchoir à Sobo. Hein, vous feriez ça, vous, là?
Non.
Hein? Bon, alors au Japon, on appelle ça faire un yubitsume.
Beaucoup plus festif.
Ça se pratique beaucoup dans la mafia, là. Quand vous voulez prouver votre loyauté, vous coupez un doigt. Alors, cette histoire, évidemment, fait scandale et oblige Teruah à quitter Osaka pour Tokyo. Je le rappelle, elle n'a que 15 ans. Elle rentre dans une des meilleures okiya où elle apprend, en effet, alors là, Stéphane, vous avez raison, la danse, la coiffure, l'ikebana, le service du thé, mais aussi la musique et le chant. Elle apprend à lire et à écrire toute seule. Elle écrit un cahier de poèmes. Et c'est en 1911, en devenant véritablement geisha à 16 ans, qu'elle prend le nom de Teruah, donc ce qui veut dire feuille brillante. Hein. Et là, elle devient très très connue, très prisée, parce que son fait d'armes extraordinairement romanesque, où cette femme qui par amour et loyauté se coupe le petit doigt, vous pensez s'il s'appelait. Alors, on édite des cartes postales, elle est un peu comme Clémentine Delay, la femme à barbe, là, vous vous souvenez de la mascotte des poilus. Ben, Teruah, elle, il y a des photos d'elle dans toutes les situations. Teruah joue de la musique, Teruah sert le thé, la geisha aux neuf doigts. Ces cartes postales sont diffusées dans le monde entier. Et pendant plus de 5 ans, elle va vivre sous les projecteurs, puis elle se marie. Alors là, bon, évidemment, on n'est plus geisha quand on se marie. Elle part avec son époux aux États-Unis. Elle est très, très attendue. C'est une vedette. Et là, elle rencontre une vedette du cinéma muet. Hein, il y en a beaucoup. À l'époque, elle en tombe très, très amoureuse. Évidemment, son mari, peu enclin au saphisme, décide qu'il est temps pour eux de rentrer au pays. Enfin, elle a une existence extrêmement aventureuse. Elle retourne au Japon, scène de ménage, adultère, mari jaloux, tentative de suicide. Bon, elle n'est pas du tout contente d'être mariée. Elle vient en France. En France, elle a un enfant. On ne sait pas avec qui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Enfin, vous avouerez qu'à ce stade, elle a quand même déjà eu une vie très aventureuse. Teruah, la geisha aux neuf doigts. Elle retourne au Japon, elle donne des cours, elle gagne de l'argent, elle est modèle photo, elle tient un bar, mais rien lui va, elle sombre dans l'alcool et la dépression. Et c'est alors qu'elle rencontre, à votre avis, qu'est-ce qu'elle rencontre? Hein? Bon, le bouddhisme, bien sûr.
Ah, alors, il manquait plus que ça.
Alors, à 39 ans, elle trouve sa voie, elle décide d'entrer en religion. Après 3 ans d'essai en tant que moine au temple Jyoji, elle est acceptée et devient officiellement moine le 30 septembre 1934. Et elle appartient à un temple féminin fondé par deux sœurs. Deux sœurs qui ont eu un chagrin d'amour pour le même homme. Quelle belle histoire, ça c'est romain. Alors bon, donc Teruwa change complètement de vie, de nom, elle se rase la tête, elle devient Shisho. Et puis de moine, elle devient grande prêtresse. Alors la petite Maiko, la geisha aux 9 doigts, meurt comme grande prêtresse. Comme bronze, grande prêtresse Shisho en 1994 à l'âge de 98 ans.
Ah non.
Mais est-ce le sexe ou la foi qui conserve ? Je vous pose la question.
Nous n'avons pas la réponse, mais c'était passionnant.
Et qui est devenu le doigt, on ne le saura jamais.
Oui, c'est vrai, ça donne une relique sainte presque.
Il doit donner à manger à des comment appelle-t-on les poissons là, mortels là, les
piranhas. C'est ça que vous voulez dire? Les poissons mortels, c'est le piranha, le fougou.
Non, le fougou, là. Le fougou.
Voilà. Le fougou, effectivement. Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous.
Quel beau récit, hein. Après. Je vais raconter ça aux enfants pour les endormir.
Après la geisha aux 9 doigts, les amis, découvrez Stéphane Bern, l'homme aux 8 neurones. C'est le quiz, hein, tout de suite.
C'est beaucoup, hein.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Voici venu le moment le plus éminemment historique de notre émission. Ce quiz qui oppose chaque jour vers 5h-10 Clémentine Portier-Keltenbach à Stéphane Bern qui planche sur des questions qui, ma foi, ne dépareraient pas à la grecque d'histoire.
Dick Rivers, s'il y avait une perruque, non?
Jouons Ferme tout bien. Ferme tout bien. Ça commence toujours par une question pour vous.
C'est jamais des questions d'histoire.
Ah, si, c'est toujours des questions très historiques. Parlons un peu gaulois.
Ah, voilà.
Ah, l'histoire.
Ah oui, ça,
c'est pas Astérix, c'est parlons gaulois. Moulto, en gaulois, a donné le mot mouton. Et aujourd'hui, ça c'est ma question, il n'y a aucune différence entre un mouton et un bélier, à part le fait que le bélier est plus vieux. Vrai ou faux?
C'est une question
zoologie. Non. Là, y a tout.
Alors, ce que je sais, c'est que...
Que savez-vous?
Dans les termes, les Romains se sont pris toutes les choses un peu chic, toutes les expressions un peu... les éléments qui étaient élégants, et on a laissé dans la langue gauloise tout ce qui était... qui traînait dans la boue et la suie, etc.
Alors ça, c'est une information historique, voilà. Linguistique intéressante, mais qui ne répond pas du tout à ma question.
Maintenant, est-ce que le mouton est un bélier? Est-ce que le mouton est un vieux bélier?
Est-ce que le bélier est un vieux mouton, plutôt?
Oui. Le bélier est un vieux mouton. Oui, sans aucun doute. Hein, sans aucun doute.
Vous avez... perdu.
Et sans même comprendre la question qui lui était posée, finalement. C'est un grand moment du quiz. Il y est allé comme ça. J'ai vu dans ses yeux qu'il n'avait même pas compris tout à fait la teneur de la question.
Non,
il
est allé pas dit oui. Vous étiez très pressant, insistant. J'ai dit oui.
On a une émission à mener jusqu'à son terme. Alors, le mouton, c'est faux. C'est vrai. Le mouton est un mâle châtré. Donc, c'est un bélier qui a été châtré, un peu comme les bœufs et les taureaux.
Oui, c'est ça.
Et la femelle du mouton, c'est...
La femelle du mouton, c'est
pas la brebis,
la brebis ou l'agnel.
Bonne réponse, mais j'espérais donner un point à Stéphane.
Mais castre-t-on les moutons? Parce qu'ils font plus de viande et plus de graisse?
Ça, je n'ai pas la réponse, nous enquêterons là-dessus. Pourquoi castrer les béliers? Effectivement. Question numéro 2 pour vous, Clémentine, concentrez-vous. Oui. Durant la guerre de sécession, vous avez beaucoup de questions sur la guerre de sécession.
Moi, c'est la guerre de sécession, le Titanic, généralement, les questions.
Abraham Lincoln a créé un corps d'armée exclusivement composé de ballons dirigeables pour faire de la reconnaissance aérienne. On parle de la guerre de sécession, vrai ou faux?
Je croyais que vous alliez me dire qu'il avait créé un corps d'armée uniquement composé de gens de couleur, ce qui correspond à mon souvenir, en effet. Mais un corps d'armée de dirigeables...
De ballons dirigeables.
Est-ce qu'il y avait des ballons dirigeables en 14? Est-ce qu'il y a pu en avoir en 65? C'est quand même... Non, je ne crois pas.
Vous avez... perdu.
Vous avez compris la question. Néanmoins, vous n'avez pas fourni la bonne réponse. C'était
donc,
vrai.
Le résultat est le même.
C'est ça qui est quand même désolant, oui.
Écoutez, la reconnaissance aérienne est si vieille. Theodus Low, en 1861, fait une démonstration au président Lincoln sur la pelouse de la Maison-Blanche. Le ballon dirigeable monte à 150 mètres, télégraphie depuis la nacelle, ce qu'il voit d'en haut. L'Union Army Balloon Corps est né. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Un géoglyphe est un immense dessin à même le sol, obtenu grâce à l'ajout de pierres ou par enlèvement de pierres. En octobre dernier, on en a découvert un dans le désert de Nazca, au Pérou. Il est vieux de plus de 2000 ans. Au sud-ouest de l'Angleterre, il y en a un autre. Il fait 55 mètres sur 51 et représente un homme en érection avec, qui plus est, un gourdin. Vrai ou faux ?
L'homme en érection, il est dans la grotte de Lascaux. Vous vous souvenez, on en avait parlé.
Stéphane, concentrez-vous.
Voulez-vous que je me concentre ?
Sur l'image, sur l'image. Décris peut-être que...
Je ne crois pas. Non, ça, je ne crois pas.
Vous ne voyez pas.
Il représente un cheval, celui qui est très célèbre en Angleterre. Je crois que c'est au Pays de Galles.
Je suis censé être neutre. Mais néanmoins, Stéphane, je vous dirai une chose. N'écoutez pas toujours Clémentine, qui est parfois de bons conseils et parfois de mauvais conseils.
On a compris, donc d'accord.
Ah non, je n'oriente rien
du tout. Donc il y a un glyphe géant en Angleterre avec un homme en érection et un gourdin.
En plus, c'est redondant, quoi.
Qu'il soit en érection et qu'il ait aussi
et
un
gourdin.
Oui, mais c'est l'art, Stéphane.
L'art, la licence artistique.
Vous voyez, vous imaginez ça en Angleterre.
La reine serait choquée. Elle l'aurait rasée.
Non, ils l'ont effacé. Si c'était...
Mais je vous ai raconté que dans la grotte de Lascaux, l'homme est en érection au fond de la grotte de Lascaux et que le père qui a trouvé le découvreur de la grotte avait effacé le sexe en érection dans son document communiqué à l'Académie des sciences.
Il est temps de donner la réponse, Stéphane.
Vous m'avez dit de ne pas penser comme Clémentine, donc je dis oui, c'est vrai.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse de Stéphane, évidemment. C'est le géant de Cernabas. Il est dessiné par une tranchée de 30 cm par de la craie qui a empêché l'herbe de pousser. On date son apparition de l'an 1600. Rien que le gourdin fait 36 mètres. Mais je n'ai pas les mesures du sexe, qui est manifestement en érection. Voilà, Stéphane, ce qui existe quand même en Angleterre.
Vous n'avez pas une photo de ça.
Je n'ai pas une photo, d'autant que nous sommes en radio. Question numéro 4 pour vous, Clément.
Et on ne pourra pas la mettre sur le site.
Non, elle est trop choquante. C'est en 4000 avant Jésus-Christ qu'on trouve trace d'écrits faisant référence à l'alcool. On faisait de la bière en Mésopotamie. On sait que les hommes tiennent mieux l'alcool que les femmes, mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'à poids égal, également, un homme tient mieux l'alcool qu'une femme ?
À poids égal, est-ce qu'un homme tient mieux l'alcool qu'une femme ?
S'ils font le même poids.
Ben, j'ai compris, vous m'avez dit à poids égal, mais enfin, oui. C'est-à-dire que les hommes tiendraient mieux l'alcool que les femmes d'une manière générale, sauf éventuellement s'ils sont à poids égal.
Voilà ma question. Vous l'avez finalement mieux formulé que moi. Rien que pour ça, vous avez un demi-point.
Je verrai pas sinon l'intérêt de la question, donc je répondrai oui à poids égal. À poids égal, les femmes tiennent mieux l'alcool que les hommes, c'est le contraire, alors que d'une manière générale, ce sont les hommes qui tiennent mieux l'alcool. Sauf à poids égal. Et qu'était Rousse, paribus.
Vous avez perdu.
Vous étiez très bien parti pourtant, car vous aviez le bon raisonnement. Mais la femme ne tient pas mieux l'alcool à poids égal que l'homme. Elle le tient moins bien. La femme a un passage plus important de l'alcool dans le sang. L'alcool a moins d'effet et dure moins longtemps chez l'homme,
Alors vous donniez déjà la réponse dans la question, c'est ça que je comprends pas.
Quelque part, oui, et malgré ça, vous n'avez pas bien répondu.
Parce que c'était complètement pervers. Vous me dites les femmes tiennent moins bien l'alcool, sauf à poids égal, est-ce qu'elles le tiendraient mieux ? Que voulez-vous que je réponde ?
Vous avez encore formulé la réponse.
Ne vous battez pas, je vous en prie. J'ai horreur des conflits. Je préfère perdre si vous voulez. Mais...
C'est une victoire de Stéphane Bern qui a une victoire extrêmement modeste aujourd'hui, qui nous demande de
sur son,
nous
sur son gourdin en érection.
Il a gagné grâce au gourdin et à l'érection anglaise. Effectivement, bravo. Bravo Stéphane, quelle culture, une fois plus. Vous nous épatez jour après jour.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre bat son plein. Avec aujourd'hui, Stéphane, trois personnages hauts en couleur qui se sont justement inventés un personnage. Tactique gagnante dans le showbiz, j'en veux pour preuve ce chauffeur de taxi qui m'a dit hier, quand je lui ai dit que je bossais avec Stéphane Bern, « Ah, Stéphane Bern, quelle culture !» Un chauffeur de taxi qui, visiblement, n'écoute pas souvent le quiz de 5h-10. Il aurait su que c'était un personnage, un peu comme nos héros du jour, Stéphane.
Bon, passons. Après Émile Ajar, alias Romain Gary, je vous raconte l'histoire de celui qui fut un artiste aux mille visages et s'est inventé des personnages aussi fous que lui, David Bowie. Bon, et de votre côté, Mathieu, vous allez nous emmener sur un ring ?
N'oubliez pas votre coquille, Stéphane. Les coups en dessous de la ceinture sont fréquents dans le catch.
Bon.
C'est vrai. C'est vrai que le catch est un sport truqué, mais un peu mieux truqué que ça, Stéphane. Et au sommet du panthéon des catcheurs, il y a une montagne de muscles nommée Hulk Hogan. Une véritable légende que vous avez d'ailleurs pu voir dans de nombreux films. Mais qui se cache derrière ce personnage stéroïdé? Peut-être un être sensible, timide, qui aime écouter le chant du vent dans les blés en réfléchissant à la question de l'être et du néant? Ou un ricain qui aime bouffer des chicken wings devant le baseball? On verra ça tout à l'heure.
Oui, sans oublier nos chroniqueurs. Lui aussi, il grignote des chicken wings, mais sans la sauce barbecue. C'est notre chef Olivier Pouls qui nous parle d'un fruit.
Oui, on va faire plus light que le chicken wings. Quoi.
Ah oui, c'est beaucoup plus light. Sauf si on met de la double crème de gruyère. Moi, j'aime bien les fraises à la double crème de gruyère.
Ouais, c'est vrai, c'est pas mauvais.
Léger,
hein.
Du tout. Ah non, mais la gariguette,
ouais,
c'est ça.
La première fraise, celle qui ouvre la saison, celle qui ouvre le bal des fraises. D'où nous vient cette gariguette? Et je peux vous dire qu'il y a une bonne trentaine d'années encore, on ne savait pas ce que c'était.
Et puis, moi, je ferai le mot de la fin.
Mais c'est oui, c'est
vous savez, parfois, Mathieu, pendant les pubs, je vous parle de ma passion pour les personnages anonymes dans le théâtre de Sophocle, et vous me dites « Oh non, mais arrête, ça me fait une belle jambe ». Mais d'où vient cette expression « ça me fait une belle jambe »
Les personnages anonymes dans le théâtre de Sophocle. Oui, on a hâte de connaître cette expression. Enfin, lui aussi, Stéphane, il s'est construit un personnage dans le petit monde des soirées clandestines parisiennes. Vous l'avez croisé pas plus tard qu'hier.
Parfumé comme une cocotte, des rubans partout.
Oui, c'est David Stelops. David, chaque jour, les origines d'une invention qui fait notre bonheur au quotidien aujourd'hui.
Tout à fait, les sanisettes, c'est-à-dire les toilettes publiques automatiques qu'il y a à Paris et dans d'autres villes.
On les voit de moins en moins.
Ouais.
Ah, non, non, pas.
Je fais un petit cri.
Oui, ça, c'est votre cri quand vous ne savez pas quoi répondre une affirmation en fait, idiote, puisqu'il y a autant de sanisettes que.
Il y avait plein de sanisettes, Olivier. Je ne sais pas, je ne crois pas, en fait, c'est ce que j'ai dit dans mon petit cri. Voilà.
Pas. Nous vérifierons l'existence des sanisettes aujourd'hui dans la ville de Paris. Nous les recenserons. Mais tout de suite, Stéphane enfile son jean pas de def et nous raconte les multiples personnages de celui qui fut le caméléon du rock, David Bowie.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Dans l'univers musical, il est un garçon pas comme les autres, mais tout le monde l'aime, c'est pas sa faute. Quoi qu'il a quand même bien cherché, un chanteur de génie qui s'est notamment inventé un personnage resté presque aussi célèbre que lui, le très glam rock Ziggy Stardust. Let's dance!
On a un peu tendance à l'oublier, mais c'était pas franchement la joie dans les années 70 en Angleterre. Les grèves se multiplient, la crise économique qui commence ravage des quartiers ouvriers de plus en plus tristes, les services publics fonctionnent mal, la violence fait rage en Irlande du Nord. L'optimisme des 60s a pris un coup dans l'aile, les 70s commencent dans la grisaille, et l'Angleterre franchement n'a pas le moral. Et pourtant, au milieu de la morosité générale va surgir un personnage hors du commun, une créature qui va réveiller ce royaume endormi, Ziggy Stardust, l'alter ego d'un chanteur de 25 ans tout juste, David Bowie. Put on your red shoes and dance the blues. Bowie n'est pas un inconnu en Grande-Bretagne. Depuis le début de sa carrière, le chanteur a déjà sorti 4 albums et l'un de ses morceaux, Space Oddity, a déjà rencontré un joli succès en 1969. Mais au soir du 6 juillet 1972, les 15 millions de fidèles de Top of the Pops, l'émission musicale phare de la BBC, n'étaient peut-être pas tout à fait prêts à découvrir ce qui les attendait, en tout cas pas tous. Ce soir-là, David Bowie n'apparaît pas à l'écran pour lancer son nouvel album au milieu de ses musiciens vêtus de combinaisons argentées. Il a laissé la place à Ziggy Stardust, une créature longiligne, aux cheveux roux et au visage pâle, habillé d'un costume criard, androgyne en diable, magnétique et séducteur, avec un sourire amusé aux lèvres. Avec sa guitare sèche, peinte d'un bleu vif qui a dû faire fondre les caméras, Ziggy et ses musiciens crèvent littéralement l'écran en jouant Ziggy Stardust, le premier single de leur nouvel album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Autrement dit, l'ascension et la chute de Ziggy Stardust et des araignées de Mars. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. Pour imaginer un titre et un personnage pareil, vous allez me dire que David Bowie ne devait pas tourner qu'à l'eau claire. Et je dois dire, vous avez peut-être raison, Mathieu. Oui. D'autant que Stardust, en anglais, ça veut dire poussière d'étoiles et que c'est l'un des surnoms de la cocaïne. Mais une chose est sûre, la naissance de Ziggy, c'est tout sauf un caprice de rockstar. Non, en créant Ziggy Stardust, Bowie sait très bien ce qu'il fait et pourquoi il le fait.
Tout est travaillé jusqu'à la maniaquerie. Son visage déjà. Le maquillage et la coiffure de Siggy vont évoluer, mais Bowie va toujours garder ce teint pâle qui fait ressortir le roux éclatant de sa coupe mulet. Ce côté blafard, il le doit à la poudre de riz et aux techniques de maquillage du théâtre classique japonais, le kabuki. C'est aussi pour reprendre les codes du kabuki que David Bowie se rasera les sourcils, ce qui renforce encore l'étrangeté de Siggy. Mais Siggy, c'est surtout l'immense éclair rouge et bleu qu'on aperçoit sur la pochette de l'album Aladdin Sane. Cet éclair qui part du front et lui mange le visage jusque sur sa joue en formant un Z comme Ziggy. Il y a son look aussi, pensé pour obtenir un effet étrange, érotique et androgyne. L'ambiguïté, bah oui, on avait déjà joué. Il posait en robe sur la couverture d'un de ses albums précédents, The Man Who Sold the World. Mais là, c'est le cran au-dessus. Avec ses costumes extravagants, ses couleurs vives, ses matières métalliques ou satinées, couvertes de strass et de paillettes, Bowie donne ses lettres de noblesse au glam rock. À des kilomètres du look de bad boy viril des Rolling Stones ou des Doors, Ziggy est un dandy androgyne à l'érotisme ambigu. Et c'est soigneusement fait exprès. Si David Bowie crée Ziggy, c'est pour en faire l'interprète de ce qu'il a à dire à un moment où les choses bougent sur le plan des mœurs, des drogues et de la sexualité. Aux États-Unis, Lou Reed invite son public à faire un tour du mauvais côté avec le célèbre Walk on the Wild Side. À Londres, les militants des droits des homosexuels sortent de l'ombre avec les premières Gay Pride. Quelque chose se passe et Bowie s'en mêle au travers de Ziggy et de son message d'amour et de paix, extravagant et onirique, mais aussi lourd de sens. Ziggy est aussi étrange et différent que l'histoire qu'il raconte dans The Rise and Fall of Ziggy Stardust, celle d'un extraterrestre d'abord envoyé sur Terre pour avertir l'humanité que le monde n'en a plus que pour 5 ans, mais qui devient une rockstar, un prophète qui invite son public à jouir sans entrave. Et tandis que l'humanité approche de sa fin, Ziggy annonce enfin qu'un mystérieux Starman attend dans l'espace et va venir pour sauver la planète, parce qu'il sait que ça en vaut la peine. En 18 mois, le poids que prend Ziggy dans la pop culture est à peine imaginable. Son look, sa coupe et cet éclair deviennent le signe de ralliement d'une génération qui n'en peut plus des carcans des bonnes mœurs et de la bonne société et qui se retrouve dans la flamboyance, l'optimisme et le courage de Ziggy. Mais en juillet 1973, David Bowie vit depuis 18 mois déjà dans la peau de Ziggy Stardust, presque sans interruption. Le rythme épuisant des concerts et la nécessité d'incarner Ziggy pèsent sur le moral de David Bowie, et même sur son état mental. Alors, le 3 juillet 1973, sans prévenir personne, ou presque, David Bowie décide de tuer Ziggy. Mais il lui offre une mort à l'échelle du personnage, une mort sur scène, là où il est né, à Londres, devant les 3500 spectateurs du Hammersmith Odeon. Ce soir-là, le set du concert prévoit 18 chansons. À la fin du 17e morceau, Bowie saisit le micro et annonce que ce n'est pas seulement le dernier concert de la tournée, mais aussi le dernier concert que nous ferons tout court. Dans la minute qui suit, le groupe entame son dernier titre, Rock'n'Roll Suicide, et sort de scène. You're a rock'n'roll suicide. Chef break the snarling. C'est un coup de tonnerre. Le lendemain, toute la presse est convaincue que Bowie vient d'annoncer la fin de sa carrière. Mais le démenti vient très vite. L'annonce de David Bowie ne concernait que sa formation, les fameux Spiders from Mars et le personnage de Ziggy. Bowie en a fini avec Ziggy, mais il n'en a pas fini avec les avatars, les doubles et les alter-ego. Ziggy est mort, place à Halloween Jack avec son bandeau de pirate ou à Thin White Duke, cette silhouette nonchalante vêtue de blanc. Tous sont partis en même temps que David Bowie, emporté par un cancer le 10 janvier 2016, il y a 5 ans déjà. Mais tous sont éternels et Ziggy, plus qu'un autre, en 1978, quand Luc Plamondon et Michel Berger ont créé Starmania, c'est son nom qu'ils donnent à ce garçon pas comme les autres que chanteront Fabienne Thibault puis Céline Dion. Et ça, c'est pas de sa faute.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de l'immense David Bowie, nous sommes avec le journaliste français qui le connaît certainement le mieux, Jérôme Soligny.
Oui, bonjour.
Bonjour Jérôme Soligny, vous êtes musicien, journaliste, vous êtes l'une des plumes du magazine Rock'n'Folk pendant, enfin vous l'avez été pendant 25 ans, vous êtes l'auteur de Rainbow Man, un double pavé de 1200 pages au total, publié chez Gallimard, dont vous précisez qu'il s'agit plus d'une étude de sa musique que d'une biographie. Alors, avant d'évoquer Bowie et ses personnages, il faut d'abord reconnaître l'immense musicien et artiste qu'il était. C'est cela qui a présidé à l'écriture de cette Bible, de ce livre colossal.
Eh bien écoutez, oui, en grande partie en tous les cas. C'est surtout dû à la ténacité d'un éditeur, Gallimard, qui m'a proposé d'écrire le livre que j'aurais peut-être envie de lire en fait. Et il s'avère que, étant musicien moi-même, je me suis dit que d'abord il n'y avait pas aucun livre qui ne parlait que de la musique de David Bowie. David Bowie, on parle de beaucoup d'autres choses, que ce soit choses liées au business, des choses liées au sexe, à la drogue, etc. Mais moi je voulais parler que de la musique parce que je pense que c'était l'angle qui était intéressant. Donc en fait effectivement c'est une espèce de grande fresque de toute sa carrière musicale, et qui est en partie commenté par les gens qui étaient avec lui au moment où il a échafaudé son œuvre.
Vous racontez dans l'introduction de votre livre votre découverte de Bowie. Vous écrivez « Avant, l'essentiel était gris. Bowie, ça a été et ça reste autre chose, le coup de la catapulte et du kaléidoscope. » C'est une révolution musicale, David Bowie. Aujourd'hui, il fait partie presque du patrimoine musical. À l'époque, c'est vraiment... Il sort du lot.
Oui, et puis même au-delà de ça, vous avez tout à fait raison, mais au-delà de ça, c'était aussi une révolution que je pourrais presque qualifier physique et pour pas dire sensuelle. C'est-à-dire que arrivait ce personnage qui jouait la carte androgyne, qui jouait la carte bisexuelle, qui avait déclaré la même année qu'il était gay dans la presse anglaise, musicale, et bien sûr, ça avait fait l'effet d'une bombe. Et pour la plupart des adolescents de cette époque-là qui ont découvert sa musique en même temps que les premiers et moi, quel qu'il soit, ça faisait quand même beaucoup. Il a énormément fait pour que l'image du rocker macho, les Led Zeppelin, les Who, les Ten Years After, tout ça, qui sont d'excellents groupes, mais avec une image très le poitrail velu, etc. Bon, David Bowie, c'était pas ça. Tout d'un coup, on voyait un type complètement imberbe, maquillé comme Stéphane l'a décrit. Enfin voilà, ça faisait forcément un choc. Surtout qu'en plus, il n'y avait pas tous les médias, il n'y avait pas Internet, donc on voyait quelques photos dans la presse rock spécialisée. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui apparaissait de venir d'une autre planète, de Mars en l'occurrence.
Mais Bowie n'a cessé de se réinventer musicalement. Alors justement, se créer des personnages, c'était peut-être le moyen de justifier ses expérimentations sonores, ou alors vous pensez, vous, que ça allait beaucoup plus loin dans son désir?
Disons que ça va peut-être pas si loin que ça. David était quelqu'un qui s'ennuyait très vite. Et il s'ennuyait aussi très vite, a priori, de lui-même ou de ce qu'il créait. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un certain laps de temps, s'il était avec un personnage, vous avez parlé de Ziggy Stardust à juste titre, eh bien finalement Ziggy Stardust, en un an et demi, il en avait fait grosso modo le tour. Mm-hmm. Sauf que en fait, pour arriver à Ziggy Stardust, il y a 5-6 ans de préparation, ou plutôt d'insuccès dans l'ombre, et finalement quand ça arrive, à un moment, ça le lasse. Et puis, effectivement, il ne se voyait pas peut-être à 60 ans sur une scène avec des petites tenues en satin, etc. comme ça. Donc c'est aussi ça qui lui a donné envie d'évoluer. Mais David est quelqu'un qui s'ennuyait beaucoup, et surtout de ce qu'il faisait.
Et alors, on parle de ce personnage de Ziggy Stardust. Est-ce que c'est une idée très personnelle ou est-ce que ça lui a été soufflé? Il avait 25 ans, on le rappelle. Est-ce que c'est choisi comme métamorphose? C'était pensé, voulu par lui, ou c'est plutôt un coup marketing de son manager de l'époque?
Alors là, pour le coup, c'est vraiment pensé par lui, c'est élaboré par lui. Il faut savoir que Ziggy Stardust est un composite de plusieurs personnages, dont par exemple un rocker qui a beaucoup marché en France à une certaine époque, qui s'appelait Vince Taylor. David Bowie a fait un amalgame de tout ça, et il faut savoir qu'en revanche, le fameux manager Tony DeFreeze l'a un peu catapulté. Le coup de génie de Tony DeFreeze a été de faire croire à tout le monde que David Bowie était une star alors qu'il n'en était pas une. C'est-à-dire qu'il agissait comme une star, il roulait dans des voitures de stars, il descendait dans des hôtels de stars, mais il ne l'était pas. Mais du même coup, la presse se disait, zut, on a peut-être raté quelque chose, ça doit vraiment être une star. Donc c'est ça le coup de génie commercial, marketing. Mais en revanche, tout le côté artistique, c'est vraiment Bowie. Personne n'a jamais rien dicté sur le plan artistique pur à David Bowie.
Et justement, dans votre livre, Jérôme Soligny, vous déconstruisez un peu le mythe du calculateur qui colle à Bowie, celui qui aurait créé chaque album avec des intentions très définies. En fait, c'était juste un artiste inspiré.
Oui, exactement. Et c'est-à-dire que quand certains albums mettaient beaucoup de temps à être élaborés, comme ça pouvait arriver dans les années 70 et 80, mais finalement, entre le moment où il commençait l'album et ce qui allait sortir peut-être parfois un an plus tard, il était passé par mille affres, par mille tendances, par mille styles, et parfois, il rentrait en studio avec une idée bien définie, et à la fin, le résultat était tout à fait différent, parce que lui aussi allait entendre quelque chose qui allait l'interpeller, ou il allait voir une expo, et en voyant cette expo-là, il avait envie de créer des personnages, enfin voilà, c'était quelqu'un qui était tout le temps en mutation permanente, mais même à travers sa tête, c'est-à-dire qu'il était, c'était une éponge, David Bowie, c'était une, voilà, il y a pas de meilleure image. Au-delà du fait qu'il était caméléon, c'était surtout une éponge, il incorporait tout, il amalgamait tout, et après il le ressortait, mais jamais, enfin c'était un instinctif, hein. En studio, il laissait souvent ses musiciens jouer, puis dès qu'un truc lui plaisait, hop, ça c'est pas mal, tiens, on n'a qu'à partir de là, et voilà. Mais il arrivait pas avec 14 chansons écrites à dire à tout le monde, bah maintenant on les enregistre, hein. Tony Visconti, le producteur qui a produit le plus de disques, dit toujours que énormément de textes de chansons étaient écrits, comme on dit, au pied du micro, c'est-à-dire qu'il manquait des vers, et vas-y que je te rajoute un vers, là, comme ça, tiens, il y a un journal qui est ouvert, il y a écrit quoi sur le journal, tiens, je vais prendre ça, paf, paf, voilà, donc c'était très, très intuitif, ah, très oui. Instinctif.
Il y a un peu d'impro.
En tout cas, merci beaucoup, Jérôme Soligny, de nous avoir évoqué la personnalité et la musique de David Bowie. Pour tout connaître de sa musique et de David Bowie, je ne peux que recommander à nos auditeurs votre œuvre. Rainbow Man, 67-80 pour le tome 1, 1983-2016 pour le tome 2. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui se sont justement créés un personnage jusqu'à parfois se confondre totalement avec lui. Après David Bowie et Romain Gary, deux génies qui ont su se créer des personnages assez chics, vous nous brossez à présent, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un homme qui s'est construit un personnage, disons, un peu moins chic.
Nous ne sommes pas là pour juger, Stéphane. Oui. Mais oui, le mot chic n'est pas le premier qui vient à l'esprit quand on évoque mon personnage du jour, qui évolue dans un univers où les notions d'élégance et de raffinement ne sont pas vraiment centrales, l'univers du catch. Des grands types musclés qui se sautent dessus, moulés dans des combis en lycra, des torses luisants et des triceps huilés, des râles dont on peine à dire s'ils sont de douleur ou de plaisir, ça rappelle les soirées chez David avant le confinement, ces soirées dont il était parfois difficile de respecter le dress code pour les plus timorés.
Désolé de ne pouvoir venir à poil.
Mais non, cet après-midi, on parle bien de catch. Bienvenue dans le monde de la WWF, la World Wrestling Federation, la principale ligue de catch américaine. Un monde en soi, avec ses millions de fans de par le monde et son champion historique, première star de l'histoire du catch, le monstrueux Hulk Hogan, 2 mètres pour 138 kilos, un look plus ricain que Captain America, des bottes jaunes, une moustache jaune, sa carte évidemment de membre du Parti Républicain, et surtout une musculature qui normalement n'existe pas. Vous savez, Hulk Hogan fait partie de ces gens agaçants qui ont des muscles, si on les voyait pas sur eux, on n'aurait jamais su qu'ils existaient. Genre là, sous les côtes, vous voyez, juste avant les éventuels abdos. Là, il a une sorte de vallon rigide. Nous, je vous invite à vérifier, on n'a ni vallon ni rigidité, juste du plat, voire du mou. C'est ça, Hulk Hogan, un type qui a passé sa vie à se construire un corps et un personnage, celui de l'Américain invincible et patriote. Et ça fait 40 ans maintenant qu'il entretient ce personnage. Ça mérite un coup de chapeau, car lorsqu'on s'invente un personnage, le plus dur, c'est évidemment de rester crédible sur la durée. C'est très facile, comme Stéphane, de s'inventer une vie un soir comme ça dans un cocktail où on a envie de frimer.
Moi, j'ai connu Tabarly. Et Camas aussi, j'ai connu Camas. Écoute, j'ai barré un peu.
C'est autre chose que de devoir tenir le personnage durant toute une carrière sportive, car oui, même si le catch est chorégraphié, scénarisé, qu'on sait qui va gagner à la fin, ça reste une activité si physique qu'elle mérite, d'après ses aficionados, le terme de sport. Pour les fans, c'est même une religion. On vient se recueillir au stade, on communie dans les effluves de hot dog, au son sourd et sec des corps qui s'écrasent sur le ring après une douloureuse clé de bras. On sait apprécier la beauté d'une côte qui se brise, d'une hanche qui se disloque, on se bat pour une place dans les premiers rangs, là où avec un peu de chance on pourra gober à la volée quelques gouttes de sueur mêlées de sang des combattants moustachus. Oui, alors bien sûr c'est du chiquet, mais il faut du talent pour faire semblant. Or, le catcheur le plus talentueux a longtemps été sans conteste Terry Jean Bollea, devenu donc Hulk Hogan, star du catch et même au-delà, puisqu'il a tourné ensuite dans pas mal de films qui ont rarement concouru dans la sélection Un certain regard à Cannes, mais pas mal de films quand même. C'est en 58 que le petit Terry vient au monde en Géorgie. Pas cette Géorgie-là, non, l'autre.
Géorgie.
4,7 kg à la pesée, pas mal. Mieux, à 12 ans, il pèse déjà 86 kilos, soit seulement 4 de moins que Stéphane aujourd'hui et 37 de plus que David. À l'adolescence, Terry joue dans un groupe de rock dans les bars de Tampa Bay. Quand un soir, parmi ses clients, il y a Jack et Gerald Briscoe, deux figures du catch américain de l'époque. Jack et Gerald repèrent tout de suite la musculature atypique de Terry. Ils s'approchent de lui et lui proposent « Je vous le donne en mille ». Non, pas du poppers, David. Ils proposent de le prendre à l'essai comme catcheur. C'est comme ça que Terry s'initie au petit monde du catch. Son bizutage permet de relativiser celui qu'on a subi à Sciences Po. Ses petits camarades ayant eu l'idée rieuse de fêter son premier entraînement en lui pétant la jambe directement. Alors à l'époque, il n'y a pas d'avocat, pas de procès, évidemment, pas de téléphone portable pour prendre des photos. Alors j'ai fermé ma gueule, explique Hulk Hogan, qui en a donc bavé avant de devenir Hulk. Il lui faudra des années pour maîtriser les mille et un raffinements du catch. Du face breaker, cette technique qui consiste à exploser la tronche de son partenaire contre sa cuisse, au gorilla press drop qui nécessite de soulever l'adversaire au-dessus de sa tête, bras tendu, avant de le laisser choir par terre et de l'achever d'un énorme coup de coude au sol, histoire de l'aplatir comme une galette à la Chandeleur. Parmi ces techniques de prédilection, on citera aussi le double Nelson, qui n'est pas un nœud papillon, le Dragon Screw, dont la traduction serait trop dangereuse, ou encore le redoutable Bern Nipple Twister, pichenette ultra rapide de la main visant à tordre les tétons de l'adversaire afin de leur donner la forme d'un petit haricot vert. La douleur est si intense que l'adversaire ne peut que déclarer forfait, et alors vous pouvez l'humilier.
C'est dommage, hein.
Musclé, vicieux, rapide. Le talent de Terry attire l'attention de Vincent McMahon, le légendaire promoteur et propriétaire de la WWF. Non seulement il fait entrer Terry, mais c'est lui qui va lui trouver ce surnom Hulk Hogan. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est encore plus costaud que l'acteur qui interprète à l'époque l'incroyable Hulk. Sa carrière décolle, ses adversaires remercient Dieu d'avoir inventé la coquille de protection. Il enchaîne les victoires et tape dans l'œil de Sylvester Stallone qui lui offre un rôle dans Rocky 3. Il y interprète, attention au rôle de composition, un catcheur. 30 ans après, Stallone garde un souvenir ému de ce tournage, je cite « Hulk est un type qui ne connaît pas sa force. Quand il a sauté dans le public pour se battre avec les cascadeurs, trois d'entre eux ont dû être hospitalisés. Super gars, super ami, sa présence a été formidable pour le film, ce fut un privilège d'être mutilé par un tel gentleman. » En 84, Hulk décroche le Graal des catcheurs, la ceinture de champion du monde donnée à la barbe d'Iron Sheik, un personnage de méchant tout en finesse, incarnant un vilain iranien qui ressemblait à une sorte de Yasser Arafat créatiné, torse nu, avec les moustaches de Salvador Dali. La Hulkmania est lancée, elle va durer 12 ans à triompher des méchants et à tourner dans tout ce que le cinéma fait de mieux durant ces années-là, à savoir par ordre de thé croissant dans Télérama, Cadence de combat, Monsieur Nounou, Santa with Muscles, le Père Noël avec des muscles, et enfin, les trois ninjas se déchaînent. Hulk est au top, médiatiquement et physiquement, pas peu fier de ses mensurations, il avoue même surnommé une partie de son corps le piton de 60 cm, vous devinez laquelle ? Non, raté Stéphane, son biceps droit. Sorte de musclore patriote évangéliste, il en profite même pour délivrer des messages saints aux jeunes Américains à travers des spots télé où il les exhorte à ne pas oublier, je cite, de prendre leurs vitamines, de boire leur lait et de dire leurs prières. Il est l'Amérique qui gagne, il est l'Amérique qui ne triche pas. Une image qui, hélas, s'effrite en 1994. Quand l'Amérique, abasourdie, découvre à travers le procès de son mentor, le promoteur Vince McMahon, un bien surprenant poteau rose. En effet, Stéphane, tenez-vous bien, on découvre lors de ce procès que les muscles des catcheurs professionnels ne poussent pas spontanément avec un peu de lait, de vitamines et des prières. Non, pour développer les muscles de ses poulains, McMahon leur aurait fait prendre des stéroïdes. Comment Hulk Hogan, 2m, 138 kg avec 1% de masse adipeuse, prendre des stéroïdes ? Les fans de catch sont sous le choc, surtout que Hulk avoue, oui, il en a consommé, je cite, « Tout le monde en prenait, c'était comme la LSD chez Stéphane Bern dans les années 2000 ».
Non, ça c'est faux.
À partir de là, c'est le déclin sportif. Hulk quitte la WWF et tapine à droite à gauche pour d'autres ligues. En 2012, c'est le pompon, cela dit devenu incontournable dans toute carrière de star qui se respecte, c'est évidemment la fuite d'une sextape. Le site Gawker met en ligne la vidéo sexy comique des ébats de Papy Moustache avec Heather Clem, la femme d'un de ses amis animateurs radio. Vous, Stéphane, quand un ex balance une sextape de vous sur les notes, vous réagissez promptement.
Je demande à mon avocat d'intervenir immédiatement.
Hogan, lui, tarde à réagir. La vidéo reste en ligne plusieurs jours et c'est pas malin parce que dans cette vidéo, et c'est surtout ça qui pose problème, il ne se contente pas de baiser, il parle aussi. Et ce qu'il dit n'est pas joli. Le site Gawker diffuse notamment un extrait de cette sextape où Hulk Hogan tient des propos clairement homophobes
puis frontalement raciste, reprochant à sa fille de sortir avec, je cite, « trop de noirs, même pas riches ». Ah là là, c'est noir, conclura notre sympathique catcheur, comme un militant RN à une pendaison de crémaillère chez Jordan Bardella. Là encore, la réaction de Hogan laisse à désirer, au niveau juridique en tout cas, puisqu'il admet, je cite, « être raciste jusqu'à un certain point ». Qu'est-ce qu'être raciste jusqu'à un certain point ? Je pose la question. Bon, conscient d'avoir dérapé, Hogan se répandra ensuite en excuses, ce qui n'empêchera pas la fédération de résilier son contrat. Fin de carrière en eau de boudin, donc pour la légende du ring, qui retrouvera néanmoins le sourire en gagnant son procès en diffamation contre le site Gawker. 31 millions de dollars en dommages et intérêts. Son avocat lui avait dit « Ok, cool, maintenant tu te tais ». Message reçu 5 sur 5, jusqu'au 12 janvier dernier où Hulk a décidé de nous gratifier sur Instagram de sa vision de la politique vaccinale américaine contre la Covid. Je cite « Hey les gars, peut-être qu'en fait on n'a pas besoin de vaccin. Peut-être qu'il faut juste saisir cette opportunité de s'isoler loin des distractions du monde et se concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, Jésus ». Quelqu'un forward à Macron ? Parce que peut-être qu'on est en train de faire fausse route avec cette idée de tout miser sur les vaccins alors que Dieu est dispo pour tout arranger gratuitement. Bref, de Hulk Hogan, on se souviendra de ses prouesses sur le ring, un peu moins de ses prouesses hors du ring, et on se demandera dans quelle mesure Terry, le jeune homme féru de musique qu'il était à 20 ans, n'a pas été phagocyté par la masse de muscles qu'il est devenu à travers le personnage caricatural de Hulk Hogan. C'est fort probable, mais ne lui jetons pas la pierre. C'est dur de jouer un personnage toute sa vie sans jamais se trahir. Prenez Stéphane par exemple. 20 ans qu'il essaye de se présenter comme un citoyen exemplaire, payant ses impôts en France. Et puis, il suffit d'une fraction de seconde d'inattention et c'est le lapsus révélateur.
J'ai aucun problème avec les montages financiers au Luxembourg. Enfin, je veux dire, j'en ai pas.
Oui. Et puis aussi, Stéphane, on arrête les nipple twisters. Hein, sinon, je ne prends plus l'ascenseur avec vous.
Merci, Mathieu. Bon, il y a beaucoup de faux, mais...
Il y a beaucoup de vrais, là, concernant ce Hulk Hogan, chez qui j'espérais déceler un peu de finesse et d'humanité, mais plus vous creusez, en fait, plus vous allez
le
sur son Instagram.
Ressort. Oui, quelle horreur.
Effectivement.
Ah bon, merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour et de revenir, toujours par l'entremise de l'histoire, évidemment, à notre vie quotidienne.
D'où vient cet objet, cette expression, ce plat ? Voilà les questions qu'on se pose dans cette ultime demi-heure. Avec Olivier Pouls, on se pose cette question. Personnellement, je ne me l'étais jamais posée. D'où vient la fraise Gariguette ?
Bah oui, la première fraise de la saison. Vous êtes encore jeune, mon cher Mathieu, mais vous vous souvenez peut-être pas qu'il y a quelques années, au mois de mars, il n'y avait pas de fraises et encore moins de Gariguette.
Quand je suis né, la Gariguette n'existait pas.
Elle commençait à ramener sa fraise, si je puis dire.
Bien joué. Le mot de la fin, puisque vous aimez les mots et les jeux de mots, mon cher Olivier, le mot de la fin, c'est Stéphane qui l'aura chaque jour l'histoire d'une expression.
Non, mais quand quelqu'un vous parle d'un truc qui vous intéresse pas, vous dites « Ah, ça me fait une belle jambe ». D'où ça vient, cette expression ?
Nous le saurons en toute fin d'émission, mais tout de suite, c'est David Castello-Lopez qui ramène sa phrase à son tour pour nous raconter l'origine, d'une invention fort utile quand on a un peu trop bu et qu'on se balade dans les rues de la ville, les sanisettes.
Tout à fait, c'est les toilettes publiques automatiques à Paris. Alors, hier, pour préparer cette chronique, comme je suis un journaliste qui s'engage dans ces sujets, je suis allé tester pour vous une sanisette. Oui, vous étiez sans doute chez vous en train de jouer à la PlayStation ou de chiller en écoutant Michel Sardou.
Et moi, voir les deux.
Mais moi, je suis sorti de chez moi, où au passage, il y a des toilettes tout à fait fonctionnelles qui permettent de faire très bien pipi. Et j'ai marché un quart d'heure pour trouver une sanisette et raconter mon expérience aux auditeurs d'Europe 1. Alors, je pense que ça faisait 10 ans que j'étais pas entré dans une sanisette. Il y a eu des progrès quand même. Moi, ce dont je me souvenais des sanisettes, c'est notamment de la terreur que la porte s'ouvre subitement et qu'on vous voit assis sur le trône au milieu de la place de la Madeleine, le caleçon sur les talons, vous voyez. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup moins peur parce que quand vous fermez la porte, il y a la voix d'une dame qui vous rassure en vous disant la chose suivante.
Ah ouais,
porte fermée et verrouillée, merci madame. Alors la dame par ailleurs, elle vous prévient qu'il y a une durée d'utilisation maximale de la sanisette.
La durée d'utilisation maximale est de 20 minutes.
Voilà, 20 minutes c'est pas mal, durée au terme de laquelle la porte s'ouvrira en effet et la place de la Madeleine vous verra effectivement en train de faire caca. Alors tout ça c'est positif, mais il faut le dire, il n'y a pas que des choses positives dans les sanisettes, en tout cas dans celles que j'ai testées, et il y a notamment des bruits d'eau qui goûtent, ce qui évoque un peu la saleté. Je vous ai fait un petit extrait sonore.
C'est normal qu'on entende ça ?
Ça goûte un peu de partout, je sais pas si c'était celle-ci ou alors juste celle-ci ou les sanisettes en général, mais ça évoque un peu une grotte nauséabonde, vous voyez, c'est pas très bien. Mais bon, j'ai fait mes affaires que les Américains appellent la numéro 1 et qu'en France, on appelle la petite commission.
The small commission.
The small commission. J'ai tiré la chasse adaptée à cette commission, parce qu'il y en avait deux, et là, la dame m'a dit la chose suivante.
Remercions d'avoir choisi un lavage cuvette économique.
Voilà. On vous remercie d'avoir choisi un lavage de cuvette économique.
Elle parle beaucoup, moi ça me déconcentrerait. Tout à fait. Qui me parle comme ça.
Elle parle après, hein, là.
Ouais, elle parle après. Mais un bon rapport avec cette dame, hyper sympa pour le remerciement et tout ça.
Bravo.
J'essaye de rester sur la ligne qui sépare.
Voilà un bien joli petit colis.
Tu en as mis à côté.
Oh, je vous en prie. Quand je suis sorti de la Sanisette, j'ai entendu le bruit du lavage. Puisque vous le savez, l'intérieur de la Sanisette est lavé entièrement et automatiquement après chaque utilisation. La cuvette, le sol, tout ça. Donc, dans l'ensemble, c'était quand même une très bonne expérience. C'était un petit peu moins bien que si j'étais resté chez moi pour faire pipi, hein.
Oui.
Mais c'était bien quand même. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe, ces appareils à faire pipi dans la rue? Alors, jusqu'à la fin du 18e siècle à Paris, les gens, ils faisaient pipi où ils pouvaient, ce qui était dégueulasse. Mais à ce moment-là, justement, le roi a interdit aux gens de faire pipi partout. Et donc, la nécessité de proposer des endroits où les gens, au moins les hommes, puissent faire pipi, s'est fait sentir.
Parce que les femmes, on s'en fout au début.
On s'en fout jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Hein,
d'accord.
C'est ça le problème. Et il y a des gens qui avaient le sens du commerce et qui ont commencé à tenir des petits stands sympas où ils faisaient payer pour faire pipi. Mais dans l'ensemble, quand même, les gens continuaient à faire un peu n'importe quoi, à faire pipi partout. Et au milieu du 19e siècle, il y a un monsieur qui était préfet de la Seine, donc Seine qui était le nom du département de Paris avant, et qui s'appelait monsieur Rambuteau. Et qui a dit, monsieur Rambuteau, que ce serait bien de mettre des cabanes à pipi dans les rues.
On aurait dû garder ce nom d'ailleurs, cabanes à pipi, ça sonne vraiment bien.
Il en a installé plus de 400 dans la capitale qui ont rapidement pris le nom de colonnes Rambuteau. J'en ai vu en photo, c'est assez beau, ça ressemble à des colonnes Maurice. Vous voyez, mais avec un côté creusé dans lequel on pouvait faire pipi. Mais il y avait un seul homme qui pouvait faire pipi à la fois dans ces colonnes Rambuteau. Alors à la fin du 19e siècle, on les a remplacés par des sortes de paravents en métal dans lesquels on pouvait faire pipi à plusieurs.
C'est plus convivial.
Et ces paravents, c'est ce qu'on appelle des Vespasiennes. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Vespasiennes ?
Parce que Vespasien est le premier qui a fait payer pour... En disant l'argent n'a pas d'odeur.
Oui, oui.
Pecunia non olet.
En latin. Alors il y a un petit medley d'informations. C'est vrai. Il a effectivement mis en place une taxe sur l'urine.
C'était pour les teinturiers parce qu'on avait besoin
exactement.
De l'urine pour fixer
les teintures sur les tissus. Parce que c'est le pipi, c'est une des qualités du pipi, c'est un engrais qui marche très bien. Et par ailleurs,
on a trouvé d'autres techniques.
Depuis, mais à ce moment-là, c'était la seule façon de fixer les couleurs sur les teintures. Et donc, les teinturiers, voilà, de l'Empire romain, ils payaient une taxe, et en échange, ils avaient le droit de mettre une amphore devant leur magasin où les gens faisaient pipi. Les Vespasiennes, il y en avait des centaines à Paris, mais le truc, c'est qu'on ne faisait pas kiffer pipi. C'était notamment des lieux notoires de rencontres homosexuelles. Et donc, sans doute en partie pour cette raison, dans les années 60, le Parlement a voté la disparition des Vespasiennes. Mais il fallait bien les remplacer par quelque chose. Et comme souvent, quand il s'agit de trouver des idées pour construire du mobilier urbain, on fait appel à qui? On fait appel à J.C. Decaux, qui fait à peu près tout le mobilier urbain des villes occidentales. Et en 1981, la première sanisette de l'histoire a été installée à Paris. Alors depuis, elles ont changé, elles sont devenues un peu plus jolies. Et surtout, elles sont devenues gratuites en 2006. Avant, il fallait payer pour faire pipi. Il reste tout de même une Vespasienne à Paris, une seule, boulevard Arago, dans le 13e arrondissement. Et pour les besoins de cette chronique, j'y suis allé, vous voyez, j'ai donné de ma personne. J'y ai fait pipi, comme un homme des 30 glorieuses. Et sincèrement, c'était une expérience pénible. Hein. C'est sordide, c'est rouillé, il y a une odeur pestilentielle. Et vous savez quoi, je vais finir par une note un petit peu triste. Ça m'a fait de la peine. Parce que j'ai imaginé les personnes homosexuelles de 1950 obligées d'aller là pour faire leurs affaires. Et vraiment, je peux vous dire, une Vespasienne, c'est le dernier endroit du monde qui donne envie de faire des choses sexuelles, quoi. Voilà. Oui. Et pourtant, c'était là qu'ils étaient obligés d'aller. Donc, ça m'a fait un petit peu de peine.
C'était merci David.
La minute militante.
Oui, c'est beau ce que vous avez dit.
Ben, on n'ira plus jamais dans une sanisette de la même manière.
On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Des sanisettes aux Gariguettes, il n'y a qu'un pas. Olivier Pouls, aujourd'hui, la Gariguette.
Mais si vous allez au marché ou chez votre primeur depuis quelques jours, depuis quelques semaines, vous avez constaté que sont arrivées les premières fraises. Alors c'est vrai que c'est extrêmement tôt dans la saison. On ne va pas se mentir, ce n'est pas encore les meilleures. Mais elles ont le mérite d'être là et dans ce qu'on va vous proposer aujourd'hui comme fraise, on va vous vendre de la Gariguette.
Alors la Gariguette, il n'y a que de la Gariguette en ce moment.
En ce moment, il n'y a que de la Gariguette, pratiquement que de la Gariguette. Alors qu'est-ce que c'est que la Gariguette ? Eh bien, c'est une fraise qui existe depuis une bonne trentaine d'années. C'est une variété de fraises qu'on a totalement créé pour les besoins justement d'une consommation très tôt dans l'année. Alors il faut savoir que, on va faire un petit peu d'histoire, au lendemain de la guerre, il y a la Seconde Guerre mondiale, d'accord, dans les années 50. En fait, le patrimoine génétique des fraises en France est lamentable. On s'en est pas occupé, elles n'ont pas été bien entretenues, et en fait, on a des fraises qui ne donnent plus grand-chose, qui sont très attaquées par les maladies et qui sont très peu productives. Et donc, il y a un challenge qui consiste à remettre de la fraise française sur le marché, parce qu'à ce moment-là, les Espagnols et les Italiens commencent à en produire de plus en plus et en culture intensive et à nous envahir. Et donc, il faut réagir. Et c'est l'INRA qui est chargé de cette mission fraise, en quelque sorte, hein, l'Institut National de Recherche Agronomique, et l'INRA d'Avignon, qui est dirigée par une chercheuse, une certaine Georgette Risser. Et cette chercheuse, elle va faire différents essais, et elle va croiser deux fraises qui sont la Belle Roubie et la Favette, qui indépendamment n'ont pas beaucoup de qualités, mais qui mises ensemble ont des qualités intéressantes, c'est-à-dire une fraise qui a du goût, ce petit côté acidulé, qui pousse assez bien et qui surtout arrive très tôt dans la saison.
C'est pour ça,
et là, on est dans les années 70 et donc elle arrive avec cette nouvelle fraise et son nom d'ailleurs, qui est assez amusant, elle va pas le chercher bien loin puisque c'est simplement l'adresse d'un des chercheurs de l'équipe qui habite chemin des Garriguettes. On se dit, tiens, ça sonne bien.
C'est pas la Garrigue ?
Non, ça sonne bien, bah tiens, on va prendre ce nom-là et on va baptiser la Garriguette de ce nom-là. C'est ainsi qu'elle commence à arriver. Alors, il faut savoir qu'au début, dans la région d'Avignon, les producteurs n'en veulent pas, parce que elle est assez compliquée à ramasser. En fait, elle est assez chère. Et c'est dans une autre région de France que on va commencer à la proposer. Et c'est plutôt dans le sud-ouest où les premières garriguettes vont commencer à pousser. Et puis petit à petit, ben du marketing va venir enrober tout ça. Et maintenant, l'un des grands rendez-vous de l'année, c'est la garriguette qui arrive au début du mois de mars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des garriguettes que vous achetez en ce moment, elles sont cultivées hors sol. Elles sont relativement chères pour un goût qui est assez décevant. Oui. Les garriguettes de pleine terre arrivent un petit peu plus tard. Elles sont franchement meilleures. Donc, si c'est pour acheter de la fraise...
Mais comment on la distingue ? Comment c'est si elle est de pleine terre, c'est écrit dessus ?
Alors, en regardant la provenance... et en demandant à votre revendeur, il doit pouvoir vous dire si c'est de la garriguette de pleine terre ou si c'est de la garriguette hors sol. En général, la garriguette hors sol, elle est évidemment toute propre, elle est parfaitement calibrée, elle est presque trop belle pour être honnête, on va dire. D'accord. Voilà, mais cette garriguette, on peut aussi la cuisiner. Alors évidemment, vous, je sais que vous aimez la manger comme ça, tout simplement, avec un peu de crème double.
Sinon, un petit tiramisu aux fraises, moi ça me va aussi.
Oui, alors moi, ce que j'aime bien, c'est de faire un carpaccio de fraises. C'est les couper très, 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 très finement. Rajouter un tout petit peu de zeste de citron vert, une petite touche d'huile d'olive. L'huile d'olive et la fraise, ça marche très, très bien ensemble.
Oui,
et si on veut, on peut même rajouter un tout petit peu de poivre, poivre blanc. Et là aussi, le poivre et la fraise, ça joue bien. Quelques petites feuilles de menthe et vous avez un dessert ultra léger, presque 0 point Weight Watchers. Je m'adresse à Stéphane. Il peut
super
s'en servir.
Quelle chance.
Voilà. Et surtout, manger des fraises françaises, bannissez toutes les mauvaises copies espagnoles qui sont des fraises de calibre énorme, qui sont des tailles gigantesques.
Qui n'ont aucun goût.
Qui sont rouges à l'extérieur, totalement blanches dedans.
Ça n'a aucun intérêt.
Prenez de la bonne garriguette française.
C'est votre message, Olivier. Merci beaucoup. On retrouve toutes vos recettes et toutes vos histoires sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Stéphane qui arrive pour nous parler d'une expression française décortiquée comme chaque jour. C'est le mot de la fin. Aujourd'hui, votre expression, ça me fait une belle jambe, Stéphane.
Oui, quand parfois on vous donne une nouvelle qui ne vous concerne pas plus que ça, quand on vous fait un compliment qui ne vous touche absolument pas, une expression est encore employée aujourd'hui. Enfin, je crois. ça me fait une belle jambe.
Non, oui, on le dit encore.
On le dit encore.
Un peu moins qu'il y a 15-20 ans.
Oui. Bon, en tout cas, moi, je l'utilise. Pourquoi cette formule ?
Alors, visiblement, personne n'a aucune idée. Hein.
Bon, je vais vous donner l'explication. Ça vient de quelque chose que vous maîtrisez parfaitement en temps normal. C'est la mode masculine. Voyez-vous, à la Renaissance, les vêtements prennent de l'ampleur. Au XVIe siècle, ils vont se resserrer pour devenir carrément adhérents au corps. Sous la ceinture, c'est la mode des choses collantes avec des hautes choses qui se situent entre le genou et la ceinture. Au genou, toujours chez les hommes, on peut trouver de la dentelle. Nous, on portait des bas appelés des canons.
Tout ça pour dire que le galbe, les jambes bien fuselées, tout ceci était le gage d'une séduction réussie. Les hommes qui se savaient élégants grâce à leurs belles gambettes faisaient les coques. On disait qu'ils faisaient belles jambes. On était jugé sur la jambe, évidemment. Antoine Furtière, poète du début du XVIIe siècle, qu'on lit moins aujourd'hui, pour parler d'un habit qui ne le mettra pas plus en valeur, va dire « Cela ne me rendra pas la jambe mieux faite ». Au XIXe siècle, on arrive à faire la belle jambe. Pour arriver à cette négation plutôt ironique, ça me fait une belle jambe. Voilà, chez l'homme, la jambe est donc essentielle, mais chez la femme aussi. Souvenons-nous de cette citation grivoise du grand poète Casanova. Dans l'examen de la beauté d'une femme, la première chose que j'écarte, ce sont les jambes.
Sacré Casanova, il y a de l'humour hein, quand même. Oui. Hein. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était consacré à ces personnages de l'histoire qui, justement, s'étaient créés de toutes pièces un personnage. Je sais, Stéphane, que vous avez beaucoup écouté David Bowie, beaucoup lu Romain Gary, mais je me suis laissé dire que vous n'avez pas beaucoup vu de match de Hulk Hogan. Je crois qu'à l'issue de cette émission, vous ne savez toujours pas
non,
visuellement
mais là,
qui c'est.
Je vous promets, je vais aller voir à quoi il ressemble.
Mais en fait, quand vous le verrez, vous, à mon avis, vous l'avez vu. Oui, parce que c'est vraiment. Oui. C'est, si on imagine oui. le catcheur, c'est lui
mais
en fait.
Mais maintenant que je sais ce qu'il dit comme bêtise, oui, j'ai moins envie d'aller m'intéresser
bandana
à son
blanc, et puis, ouais, et puis
le bandana, parce qu'en fait, il devenait chaud. Alors, c'est pour ça qu'il a mis un bandana. Ah oui. Il avait plus sa crinière blonde
pas,
de début.
Il faut que le cheveu respire hein, pour le garder.
Ça marche pas. On se retrouve demain, Stéphane.
Oui, si vous voulez, avec joie.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.